Partie 1. New Delhi, 2004. 500 abris gisent sur le bas-côté du périphérique intérieur de Delhi, le Inner Ring Road. Mort. On croirait le début d'une sale blague. Si c'est le cas, personne n'a prévenu les malheureux. Ils sont morts à l'endroit même où ils dormaient. Ou presque. La Mercedes qui les a fauchés en prenant son virage sur les chapeaux de roue les a traînés sur une dizaine de mètres. On est en février. 3 heures du matin. 6 degrés Celsius. 15 millions d'âmes dorment, recroquevillées sur elles-mêmes. Un pâle brouillard soufré borde les rues. Parmi les morts, Rajini, 18 ans. Elle était enceinte de 5 mois. Son mari, Rajesh, 23 ans, dormait à côté d'elle. Couchés sur le dos l'un comme l'autre, la tête et les pieds serrés dans un gros châle, sac à dos sous la nuque et sandales sobrement rangées le long du corps. Ils ressemblaient déjà à des cadavres, moins les signes caractéristiques. Cruelle ironie du destin. Le couple était arrivé à Delhi la veille seulement. Il s'était placé sous la tutelle de Krishna, Liad et Chotu, 3 migrants d'Uttar Pradesh, de la même région qu'eux. Tous les jours, ces 3 hommes se réveillaient avant l'aube pour aller proposer leur service au mandi, au journalier, et tenter de s'assurer une rentrée d'argent grâce au boulot qu'ils pourraient trouver. Cuisinier dans une daba, serveur dans un mariage, maçon, n'importe quoi. Afin d'envoyer de l'argent au village, payer le shahadi d'une sœur, l'école d'un frère, les médicaments quotidiens d'un père. Ils vivent au jour le jour, d'une heure à l'autre. Travailleurs pauvres, ils bataillent pour survivre. Reviennent dormir dans ce lieu désert une fois la nuit tombée, à côté du Ring Road et près de Ningabod Ghat, à 2 pas des bidonvilles rasées et de la Yamuna Pushta où ils vivaient avant. Mais les journaux ne s'attardent pas sur ces 3 hommes. L'aube venue, leur nom s'efface avec les étoiles. Un fourgon de police arrive sur les lieux de l'accident. 4 flics en descendent, voient les cadavres et la foule en colère qui hurle et se presse autour de la Mercedes. Il y a encore quelqu'un dedans. Un homme jeune, assis droit comme un i, les bras crispés sur le volant, les yeux fermés. Il est mort? Il est mort comme ça? Les flics repoussent la populace et jettent un coup d'œil dans l'habitacle. Il dort? Demande l'un d'eux à ses collègues. À ces mots, le chauffeur tourne la tête et soulève les paupières. On dirait un monstre. Le flic le regarde à son tour et manque sursauter de peur. Il y a quelque chose de grotesque dans ce beau visage lisse. L'homme a un regard méchant, fou, mais sinon il est impeccable. Les flics ouvrent la portière, agitent leur latis d'un geste menaçant, ordonnent au chauffeur de sortir. Il a une bouteille de Jack Daniels vide à ses pieds. Il est très mince, a des cheveux brillantinés à la perfection. L'arrêt tracé au millimètre près, et dans son costume safari en gabardine grise, il a le corps d'un habitué des salles de sport. Derrière les relents de whisky se devine une autre odeur. Celle de l'eau de toilette Coolwater de chez Davidoff, même si les flics ne risquent pas de remarquer ce détail. Ce qu'il remarque en revanche, c'est que ce gars n'est pas un riche. Pas du tout. C'est plutôt un facsimilé, un homme vêtu pour suggérer la richesse. Pour la servir. Les vêtements, les détails soignés, la voiture ne peuvent masquer la pauvreté fondamentale de sa naissance. Elle sent plus fort que n'importe quel alcool ou eau de toilette. Oui, c'est un domestique, un chauffeur de maître, un conducteur, un boy. Une version bien nourrie et bien dressée de ce qu'il vient de tuer sur la route. Et ce n'est pas sa Mercedes. Ça veut dire qu'on peut lui taper dessus. Abruti par l'alcool, il sanglote tandis que les flics l'extirpent de la voiture. Plié en deux, il vomit sur ses mocassins. Un flic lui flanque un coup de latis, l'oblige à se redresser. Un autre le fouille, met la main sur son portefeuille, sur son holster d'épaule vide, sur une boîte d'allumettes provenant d'un hôtel appelé Palace Grande, sur une pince habillée serrant 20 000 roupies. « À qui appartient cette voiture? D'où vient cet argent? À qui tu l'as piqué? Tu pensais t'offrir une virée à bord de cette bagnole volée? À qui est-ce Whisky? Et où est passée l'arme, Tchoutilla? Et pour qui tu bosses, du coup? Dans son portefeuille, il y a une carte électorale, une pancarte, avec son numéro d'identification fiscale, un permis de port d'armes, un permis de conduire, 300 roupies. D'après ses papiers, il s'appelle Ajay, et son père, Harry. Il est né le 1er janvier 1982. Et la Mercedes? Elle est immatriculée au nom d'un certain Gautam Rathore. Les flics se concertent. Ce nom ne leur semble pas inconnu. Et l'adresse? Aurangzeb Road est éloquente. Seuls les riches et les puissants habitent là. Tchoutilla! Braille un agent en brandissant les papiers du véhicule. C'est ton patron? Mais le jeune gars prénommé Ajay est trop saoul pour répondre. Hé, hey, l'enfoiré! Tu l'as piqué, cette bagnole? Un des flics s'approche du bas-côté et examine les morts. Les yeux de la fille sont ouverts, et avec le froid, sa peau est déjà bleue. Du sang coule d'entre ses jambes, là où il y avait de la vie. Au commissariat, Ajay doit retirer ses vêtements. Il reste nu dans une pièce froide et aveugle. Il est tellement saoul qu'il tourne de l'œil. Les policiers reviennent lui balancer un seau d'eau glacée sur la tête et il reprend connaissance en hurlant. Il l'asseye, lui plaque les épaules contre le mur, lui écarte les jambes. Une femme agent de police se campe sur ses cuisses jusqu'à lui couper la circulation du sang. Il rugit de douleur et s'évanouit à nouveau. Le lendemain, l'affaire a pris de l'ampleur. Les médias sont horrifiés. Au début, c'est à cause de la femme enceinte. Les chaînes d'information se lamentent sur son sort. Mais elle n'était ni photogénique, ni promise à un bel avenir. Donc, l'intérêt se reporte sur le tueur. Une source confirme que la voiture est bien une Mercedes immatriculée au nom de Gautam Rathore. Et ça, c'est de l'info. Rathore apparaît régulièrement dans les événements mondains de Delhi. Il joue au polo, il a de la conversation. C'est un prince appartenant à une authentique famille royale. Le fils unique du Maharaja Prasad Singh Rathore, lui-même membre du Parlement. Gautam Rathore était-il au volant? Cette question est sur toutes les lèvres. Mais non, pas du tout. Il a un alibi irréfutable. La nuit dernière, il se détendait en dehors de Delhi. Il était près de Jaipur, dans un fort transformé en palace. On ignore en revanche où il se trouve actuellement. Cependant, il a fait une déclaration exprimant son horreur et a envoyé ses condoléances aux défunts et à leurs proches. Le chauffeur, selon la dite déclaration, n'était à son service que depuis peu et aurait pris la Mercedes à l'insu de Gautam. Il aurait pris le whisky et la Mercedes pour aller se balader sans autorisation. Un communiqué de la police confirme le tout. Profitant de l'absence de son employeur, Ajay a volé une bouteille de whisky au domicile de Rathore, s'est offert une virée au volant de la Mercedes et a perdu le contrôle du véhicule. Cette histoire devient un fait établi. Elle est consignée dans les journaux. Et un rapport d'enquête préliminaire, un FIR, est déposé. Ajay, fils de Harry, est arrêté en application de l'article 304 du Code pénal indien pour homicide involontaire. Peine maximale, 2 ans. Il est expédié vers le tribunal bondé et déféré devant le magistrat de district qui, au terme de 2 petites minutes, le place en détention sans possibilité de libération sous caution. Un bus l'emmène, lui et les autres prévenus, à Tiar Jail, la prison. On les fait attendre à la queue leu-leu pendant qu'on prépare leur mise sous écrou. Ils s'asseyent en rang maussade sur des bancs en bois dans le hall d'accueil, où les entourent, cloués sur les murs au plâtre humide et grêlé, des panneaux affichant le règlement intérieur. Lorsque son tour arrive, Ajay est poussé dans un bureau exigu où un greffier et un médecin pénitentiaire armé, qui d'une machine à écrire, qui d'un stéthoscope, vont s'occuper de lui. Une fois encore, ses biens sont exposés. Portefeuille, pince habillée avec les 20 000 roupies, la boîte d'allumettes du Palace Grandet et le holster d'épaule vide. On compte son argent. Le greffier se munit de son crayon et remplit le formulaire. Non. Le prisonnier regarde fixement les deux hommes. Non! Ajay, répond-il d'une voix tout juste audible. Nom de ton père? Harry. Âge? 22 ans. Profession? Chauffeur. Parle plus fort! Chauffeur. Qui est ton employeur? Le greffier lui jette un coup d'œil par-dessus ses lunettes. Quel est le nom de ton employeur?